Cher bien-aimé, nous allons parler de la rédaction du Nouveau Testament. Alors, mais Jésus se pencha et commença à écrire sur la terre avec son doigt. Jean chapitre 8, verset 6. L'histoire de la femme adultère nous apprend indirectement que le Seigneur Jésus-Christ savait écrire. Mais Jésus était avant tout un enseignant et non pas un écrivain. Il a été laissé à d'autres la responsabilité d'écrire ce qu'il a dit. En effet, l'alphabétisation était quelque chose de commun dans la société juive dans laquelle vivait le Christ. La capacité d'écrire d'une manière intelligible était répandue dans l'Ancien Israël, de même la capacité de mémoriser les longs textes de l'Ancien Testament. Jésus savait que ses disciples mettront par écrit ce qu'il leur avait enseigné. De plus, Jésus et ses disciples parlaient plusieurs langues. L'araméen était couramment utilisé dans la vie quotidienne. L'hébreu était utilisé dans la vie religieuse, en particulier dans le culte et la lecture de l'Écriture. On peut voir cela dans Luc chapitre 4, versets 16 à 30. Mais les gens étaient conscients d'une troisième langue, celle de l'Empire romain de l'Est, le grec. Des recherches récentes ont montré que même les juifs orthodoxes utilisaient le grec dans leurs relations quotidiennes, les uns avec les autres. Nous les voyons par exemple dans des inscriptions des pierres tombales et dans les notes manuscrites passées entre les défenseurs de la forteresse de Masada. Jésus a lui-même utilisé le grec dans le dialogue avec la femme phénicienne syrienne de langue grecque, Matthieu ou encore Marc 7, 24 à 30, et dans la dispute au sujet des impôts à payer à César, Marc 12. Quelques disciples de Jésus, principalement Matthieu, un collecteur d'impôts, était habile dans la science et l'art de l'écriture. Pendant le ministère de Jésus, quelques-uns de ses disciples mettaient par écrit des brefs récits de sa vie et de son ministère. Ce sont ces brefs récits formeront plus tard la base pour la rédaction des évangiles du Nouveau Testament. Les bibliothèques chrétiennes. Les premiers chrétiens avaient un intérêt particulier pour la littérature en général, et les textes sacrés en particulier. Avec humour, l'apôtre Jean écrit « Jésus a fait beaucoup d'autres choses, si chacune d'entre elles était écrite, je pense que même le monde entier n'aurait pas de place pour les livres qui seraient écrits. » Jean 21, 25. Paul écrit « Quand vous venez apporter le manteau que j'ai laissé avec Carpus à Troas et mes tous les parchemins. » De Timothée 4, 13. Ou encore « Écrivez sur un rouleau ce que vous voyez et envoyez-le aux sept églises. » Apocalypse 1, 11. Les chrétiens ont rassemblé dans des archives et bibliothèques les textes sacrés relatifs à la vie et au ministère de Jésus qui devenaient disponibles. Mais ils ont aussi rassemblé les textes de l'Ancien Testament et des philosophes païens de l'Antiquité. Les chrétiens d'origine gréco-romaine auraient connu les collections des philosophes et des poètes comme Aratus, Ménandre, Euripide et autres, auxquels Paul fait allusion dans ses lettres et ses discours. La découverte des manuscrits de la Mer Morte nous aide à comprendre comment les Juifs et les chrétiens organisaient leur bibliothèque. Il y avait trois types d'ouvrages littéraires dans les bibliothèques mises en place par les chrétiens de l'Église primitive. D'abord, les copies de l'Écriture sainte, ce que nous appelons maintenant l'Ancien Testament. Ils ont basé leurs recherches sur la loi et les prophètes. Ces livres de l'Ancien Testament ont été copiés et distribués parce qu'elles représentaient l'arrière-plan essentiel du message chrétien, à savoir la souffrance et la rédemption de Jésus, par Jésus-Christ le Messie avaient été prédites plusieurs siècles plus tôt avant par les prophètes de l'Ancien Testament. Au début du IIe siècle, le nombre des évangiles et le nom de leurs auteurs étaient bien établis. Papias, qui a écrit vers 110 après Jésus, est le premier témoin littéraire qui confirme l'existence des évangiles. Aucun des évangiles postérieurs n'existait encore, ni l'évangile de Thomas, ni celui de Nicodème, de Jacques. Il connaît Papias et accepte les quatre premiers évangiles, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les brèves citations de ses œuvres confirment qu'il connaissait une collection d'évangiles dès le début du IIe siècle, ce qui implique l'existence d'une telle collection à un stade encore plus précoce. 70 ans après, vers 180 après Jésus, Irénée, un autre témoin littéraire important, donne pour la première fois l'ordre des quatre évangiles, comme quatre évangiles plutôt, comme nous l'avons aujourd'hui, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. En outre, il nous dit que l'évangile de Marc a été écrit après l'exode de Pierre et Paul. Autre Nouveau Testament. Comme aujourd'hui, les premiers chrétiens avaient leur texte préféré. Et parfois des lettres ou même des évangiles entiers restaient non utilisés dans certaines régions. Deuxièmement, les lettres écrites par l'apôtre Pierre, par exemple, étaient lues presque exclusivement en Asie mineure, là où son ministère avait un impact significatif. Clément de Rome, qui a écrit vers 96 après Jésus, est le premier auteur chrétien connu à avoir cité les lettres de l'apôtre Pierre. Mais dans plusieurs provinces de l'Empire romain, les lettres de Pierre étaient inconnues. Plusieurs mettaient en doute leur authenticité, bien qu'Origène ait déclaré que Pierre avait proclamé l'évangile catholique, proclamé l'Église catholique romaine, évangile du Christ sur les trompettes jumelles de ces deux lettres. D'autre part, l'évangile de Marc, malgré sa brièveté, est probablement l'évangile le plus ancien, mais l'évangile le plus long. Plus long de Matthieu, écrit plus tard, l'avait supplanté en usage. En effet, l'évangile de Matthieu était plus populaire que celui de Marc. Marcion, un hérétique chrétien arrivé à Rome vers l'an 140 après Jésus, a de sa part rejeté plusieurs écrits des apôtres dans lesquels la nature physique du Christ était mentionnée. Il a donc rejeté le récit de la nativité de Luc et accepté seulement 10 des 13 lettres de l'apôtre Paul. Son mouvement hérétique a été banni du christianisme primitif. La liste révisée des livres du Nouveau Testament. Marcion, malgré son égarement, força l'Église à considérer plus attentivement les livres qui devraient constituer le Nouveau Testament. Les quatre évangiles, avec leurs différents accents, leurs récits, leurs discours, n'étaient pas considérés comme des documents contradictoires, mais plutôt comme complémentaires. Eusèbe de Césarée, qui écrivait au commencement du IVe siècle, a confirmé peu après le contenu d'une liste fragmentaire des livres du Nouveau Testament datant de l'an 200 après Jésus-Christ. Toutefois, Eusèbe reconnaît que l'authenticité des lettres de Jacques et Jude, de la deuxième lettre de Pierre, de la deuxième et troisième lettre de Jean, et de l'Apocalypse étaient encore remises en cause. Mais Eusèbe reste ferme que les livres suivants, le berger d'Hermas, l'Apocalypse de Pierre, les actes de Paul, la lettre de Barnabas et la Didachée ne sont pas authentiques, c'est-à-dire ne sont pas réellement d'origine apostolique. Quelques décennies après Eusèbe, le Codex Vaticanus, un volume grec de l'Ancien et du Nouveau Testament, contenait le Nouveau Testament dans sa forme complète comme nous l'avons aujourd'hui. Au contraire, le Codex Sinaiticus comprenait encore la lettre de Barnabas et le berger d'Hermas. Vers la fin du IVe siècle, le Codex Alexandrinus a rejeté le berger d'Hermas et la lettre de Barnabas, mais avait accepté les deux lettres de Clément. Alors, parlons du consensus sur le livre biblique. En 367 après Jésus, Athanase, évêque d'Alexandrie, a profité de l'occasion de sa lettre annuelle des Pâques, adressée à toutes les églises et monastères sous sa juridiction, pour indiquer les livres qui composent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En ce qui concerne le Nouveau Testament, Athanase a énuméré les mêmes 27 livres que nous avons aujourd'hui. Il écrit à propos. Ce sont les ressorts du salut, afin que quiconque a soif puisse se désaltérer par le message de leur contenu. C'est uniquement dans ces livres que se trouve la vraie religion proclamée comme la bonne nouvelle, que personne alors n'y ajoute ou rétranche quelque chose. Athanase n'inclut ni le berger d'Hermas, ni le Didache, l'enseignement des apôtres, dans le canon du Nouveau Testament, bien qu'ils reconnaissent leur valeur pédagogique pour l'Église. Toutefois, le canon biblique d'Athanase n'était pas adopté par tous. En Occident, par exemple, les variations restaient possibles. En effet, le Codex Alexandrinus continuait d'inclure des lettres rejetées par le canon d'Athanase. Mais au début des années 400 après Jésus, le canon d'Athanase sera finalement accepté par la majorité d'Églises. Dans une lettre écrite en 414 après Jésus, Jérôme, un prêtre, un père influent de l'Église, accepte les livres du Nouveau Testament indiqués par Athanase. Liste suivie dans notre Nouveau Testament aujourd'hui. Mais toutefois, Jérôme pense que la lettre de Barnabas devrait aussi être incluse dans le canon, puisque selon lui, Barnabas était le compagnon de Paul, qui était un apôtre. Mais il est important d'observer que malgré sa différence d'opinion, Jérôme a accepté de limiter le nombre des livres du Nouveau Testament aux 27 livres acceptés par tous. En d'autres termes, Jérôme confirme qu'au début du 5e siècle, le canon du Nouveau Testament avait atteint un statut solennel et définitif et ne pouvait plus être modifié. Depuis les temps de Jérôme, le canon du Nouveau Testament a été approuvé par l'histoire, la tradition et l'ensemble du corps de Christ. Malgré quelques tentatives savantes d'exclure et d'ajouter d'autres livres, les 27 livres du canon sont restés un noyau stable, non négociable du christianisme universel.